des usines offshore permanentes au Maroc ou par exemple en passé, donc pour certains pays francophones, ça peut être un avantage, en Tunisie, en Amérique latine, etc. Donc la rupture de l'unité des lieux, la rupture de l'unité des temps, c'est-à-dire que quand on fait de la maintenance informatique à partir de l'Inde, évidemment, les travailleurs qui sont en Inde et qui font la maintenance des applications qui sont aux États-Unis, ils vivent, c'est un peu la même chose pour les centres d'appel, sur des décalages horaires qui sont très importants. Et je dirais la rupture des unités d'action dans l'organisation elle-même du travail, et je vais la détailler un peu plus dans le sens que on verra là qu'il y a un changement important. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler pour une multinationale, et quand je suis arrivé, grosso modo, le message vis-à-vis des jeunes ingénieurs, des nouvelles générations qui arrivaient, c'était maintenant tous un costume cravate, parce que c'est vrai qu'il y avait deux grandes catégories, les managers et les autres, mais même les jeunes, la voie qui leur a été présentée, c'était celle de pouvoir devenir des managers. C'est quand même des gens que souvent, très souvent, c'est des bacs plus 5 ou des écoles d'ingénieurs, etc. Aujourd'hui, avec l'arrivée à force de l'intégration des équipes indiennes, donc l'arrivée à force de l'Inde, il y a une répercussion aussi ici de comment ça s'est fait l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne dira aux jeunes ingénieurs qui arrivent, notamment quand on recrute à, disons, bas salaire, même si c'est des bacs plus 5, donc on choisit souvent des jeunes qui sont issus de familles d'immigrés, etc., mais sont des ingénieurs quand même. Donc personne ne leur dira, mettez une costume cravate, ils deviennent aussi quelque part des ouvriers de production. Hein. Et ils n'ont aucune chance, sauf ceux qui se sortent de grandes écoles, etc., de devenir de managers, et ils le savent très bien. D'ailleurs, très souvent, ils restent qu'un an, deux ans dans la grande entreprise, juste pour avoir une ligne sur leur CV et après chercher des emplois de plus grande rétribution, mais tout ça dans une certaine incertitude, parce que si c'est vrai que la demande aujourd'hui reste, même en Europe, nonobstant le fait qu'on intègre et on grossit les équipes indiennes, hein, donc dans mon entreprise, on avait 3500 salariés indiens il y a 3 ans, ils sont 20 000 aujourd'hui, hein, sur les 90 000 totaux, donc il est évident que ça va avoir à moyen terme des répercussions aussi sur l'embauche ici. Donc, de l'autre côté, il y a les managers qui sont pris dans une espèce d'étau parce que c'est eux qui doivent faire fonctionner la coopération des cerveaux, mais en même temps, ils ont une pression très forte pour, par exemple, pour intégrer les équipes indiennes avec les équipes françaises ou les équipes européennes au point que cela aide à leurs objectifs. Autant plus d'Indiens ils arrivent à faire travailler sur des projets européens, plus ils seront payés. Hein. Donc il y a là une espèce de schizophrénie, d'un côté de faire travailler tout le monde ensemble dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, de l'autre côté il y a le challenge vis-à-vis de ceux qui sont les clients qu'eux ils veulent de plus en plus, et faire marcher cette espèce de quadrature du cercle c'est à l'origine de ce qu'on appelle moi je vois tous les jours le stress à l'intérieur de ce type d'entreprise. D'ailleurs, un manager, il ne peut pas faire une carrière s'il ne supporte pas le stress, s'il n'a pas la résistance psychologique et physique, n'étant pas malade, pour supporter ce type de stress. Donc, au nord et au sud, les jeunes travailleurs du cognitif, et là je passe à une autre volée, donc j'entre un peu dans l'autre partie qui est aussi la partie finale, sont doublement producteurs et consommateurs, notamment, je disais, dans la branche de télécom et médias, et sont des producteurs et des consommateurs dans l'environnement des applications et des agencements du réseau. Parce que dans les travails rétribués, ils participent, à la production par leur savoir-faire technique, mais aussi par leur capacité à puiser du net dans l'open source, Et en général, sur Internet, les outils de productivité, c'est les jeunes travailleurs. Moi, je deuxième anecdote, c'est il y a 10 ans, j'ai dirigé un projet et je voyais les jeunes qui utilisaient quelque chose qu'aujourd'hui s'appelle le chat, mais qui à l'époque personne ne connaissait. Ils l'utilisaient justement pour améliorer leur communication, leur entre guillemets savoir-faire sur les projets. Donc ceux qui ont introduit l'innovation, et ce n'est que 10 ans après que la multinationale propose une chat, un MSN, un équivalent de MSN, à tous les salariés. Donc pour donner l'importance de ce que eux, les jeunes, ils introduisent dans l'intérieur de l'entreprise. Mais dans le reste de leur vie, donc la séparation est un peu tenue, hein, parce que ils sont toujours immergés quelque part, notamment dans les télécoms, dans un monde de nouvelles technologies très souvent, hein, ils sont eux-mêmes une cible privilégiée des visions de produits qui sont proposés par les opérateurs télécoms et autres fournisseurs d'internet et de contenus sur les réseaux. C'est-à-dire que les jeunes travailleurs du cognitif, ils sont aussi visés, disons, par le marketing des grandes sociétés de technologie, et qui font des produits de technologie par les sociétés de services, en tant que technophiles et créateurs des tendances. Et ils payent une deuxième fois pour contribuer concrètement à valider cela. Donc, ils donnent une contribution dans la fabrication, mais aussi, ils les achètent et ils les valident, parce que il n'y a pas, comme on connaît bien dans le marketing des startups, les premiers passages pour lancer une innovation, c'est toujours les technophiles, c'est toujours ce type de population, et je les vois, ce sont les mêmes personnes qui les font, ils sont la première cible en termes d'utilisation. Donc, eux, les créateurs de ces produits, mais aussi, quelque part, les premières cibles du, ce que on peut appeler, j'ai repris les termes d'un bouquin qui s'appelle Storytelling de Christian Salmon, de formatage des esprits, qui notamment existe autour de l'offre dans les nouvelles technologies. Et moi, je l'ai dit un peu obscurément, je ne saurais pas trop l'expliquer, on ressent que ces formats proposés montent un petit peu, chevauchent un peu l'éthique de tout ce qui est l'immédiat et du bourrage des sens, c'est-à-dire d'où la prédominance, je ne sais pas si vous l'avez noté, dans les publicités, notamment pour les nouvelles technologies, du terme de l'émotion. Hein, donc, ce sont les cibles premières de ce type de choses. Donc, il y a là une boucle, il y a bien une boucle avec deux mâchoires, et il faut voir quelle est la réponse. Donc, je vais terminer cette exposition avec des questions. Quelles sont les luttes d'un côté à l'intérieur du travail salarié de travailleurs cognitifs, en prenant en considération aussi tous ceux qui sont dans les pays du Sud, les luttes pour libérer la coopération des cerveaux. Aujourd'hui, en France, je peux vous dire que dans ces jours, les syndicats ne proposent que quelque part de grève classique aux travailleurs du cognitif de grandes entreprises, ce qui n'a très peu de succès. Ce sont des gens qui sont éparpillés, certains ils font du télétravail, ils sont chez les clients, ou voire ils sont en Inde. Donc ça n'a pas beaucoup de sens et ça marche pas beaucoup. Donc on pense que certaines formes de lutte peut-être ne sont pas bien adaptées à cet environnement. Donc quelles sont les luttes pour se libérer dans la coopération de cerveau? La deuxième question qui regarde plutôt l'effet que l'autre contrainte auxquelles ils sont soumis, donc c'est ce que je disais, les produits et les mondes qui sont proposés par le marketing, quelles sont les créations de mondes possibles à l'alternative de ceux qui sont proposés par le capital financier, même dans les technologies, parce que J'ai un peu le sentiment que c'est pas seulement avec les thèmes du type la décroissance ou les combats contre le réchauffement de la planète qui sont hyper importants, mais on ne crée pas des mondes possibles dans lesquels ces gens peuvent se libérer, les jeunes travailleurs peuvent se libérer de cette emprise. Et donc, est-ce que le médiactivisme peut avoir un rôle pour dans cet aspect-là, créer des mondes possibles qui peuvent intéresser les travailleurs du cognitif, et les libérer un petit peu de l'empire, de ce que j'ai appelé l'empire des émotions, et quelles sont les implications entre les deux questions, les luttes pour la libération de la coopération du cerveau et les luttes pour la création des mondes possibles. Voilà, merci.